Chapitre 5. Le boulot. Marly descendit dans un petit hôtel décoré de plantes vertes dans de gros pots en cuivre et aux couloirs carrelés de marbre, comme un échiquier usé. L'ascenseur, cage dorée ouvragée aux panneaux de bois de rose, sentait l'huile essentielle de citron et le cigarillo. Sa chambre se trouvait au quatrième étage. Une unique fenêtre haute, un de ces modèles que l'on peut réellement ouvrir, y surplombait l'avenue. Une fois le groom souriant parti, elle s'affala dans un fauteuil dont le tissu en peluche contrastait agréablement avec la pâle moquette belge. Elle descendit les fermetures éclairs de ses vieilles bottes parisiennes pour la dernière fois, les retira et resta là, à fixer la dizaine de sacs de course en plastique que le groom avait disposés sur le lit. « Demain, » songea-t-elle. Elle achèterait des bagages et une brosse à dents. « Je suis en état de choc, » dit-elle aux emballages sur le matelas. « Je dois faire attention, tout me paraît irréel, là. » Elle baissa les yeux et vit que ses collants étaient tous les deux déchirés au niveau des orteils. Elle secoua la tête. Son nouveau sac à main, posé sur la table de marbre blanc près du lit, était noir, taillé dans du cuir de vache épais, doux comme du beurre flamand. Elle l'avait payé plus cher que ce que lui aurait coûté sa part d'un mois de loyer chez Andrea. Mais c'était aussi le cas d'une seule nuit dans cet hôtel. Le sac à main contenait son passeport et la puce de crédit qu'on lui avait remise à la galerie du Perret, associée à un compte à son nom sur une branche orbitale de l'Algemene Bank Nederland. Elle se rendit dans la salle de bain où elle tourna les doux robinets en cuivre de la grande baignoire blanche. De l'eau chaude et mousseuse jaillit d'un système de filtrage japonais. L'hôtel offrait des sachets de sel de bain, des tubes de crème et d'huile parfumée. Elle en vida un dans la baignoire qui se remplissait et entreprit de se déshabiller, retirant avec regret la Sally Stanley. Une heure auparavant, la veste achetée un an plus tôt était encore son vêtement préféré et, sans doute, la chose la plus chère qu'elle ait jamais possédée. Désormais, ce n'était plus qu'un objet que les femmes de ménage récupéreraient et qui finirait, peut-être, dans un marché aux puces de la ville, le genre d'endroit où elle traquait les bonnes affaires lorsqu'elle était étudiante en art. Les miroirs s'embrumèrent et un peu d'eau s'écoula dessus tandis que la pièce s'emplissait de vapeurs parfumées, floutant le reflet de sa nudité. Était-ce vraiment aussi simple? La mince puce de crédit doré de Virec l'avait-elle tirée de son malheur? Et conduite dans cet hôtel où les serviettes étaient blanches, épaisses et rêches, elle ressentait une sorte de vertige spirituel, comme si elle tremblait au bord d'un précipice. Elle se demandait quel était le véritable pouvoir de l'argent lorsqu'on en avait beaucoup, vraiment beaucoup. Elle supposa que seuls les Virec de ce monde devaient le savoir, et qu'ils en étaient à la fois totalement incapables. Poser la question à Virec reviendrait à interroger un poisson afin d'en apprendre un peu plus sur l'eau. « Oui, ma chère, elle est mouillée. Oui, mon enfant, c'est sans doute comme une serviette chaude, parfumée et rugueuse. » Elle entra dans la baignoire et s'y allongea. Demain, elle se ferait couper les cheveux. À Paris, le téléphone d'Andrea sonna 16 fois avant que Marly ne se rappelle le programme spécial. Il devait encore être installé et ce petit hôtel bruxellois onéreux ne se trouvait pas dans sa liste. Elle se pencha pour reposer le combiné sur la table au plateau de marbre et il sonna une fois, doucement. « Un livreur a déposé un colis pour vous de la galerie du Perret. » Lorsque le groom, un homme plus jeune cette fois, à la peau mate et peut-être espagnol, prit congé, elle emporta le paquet jusqu'à la fenêtre et le retourna dans ses mains. Il était enveloppé dans une seule feuille de papier gris sombre, plié et fermé avec cette mystérieuse méthode japonaise qui ne nécessite ni colle ni ficelle. Elle savait qu'une fois ouverte, elle ne pourrait plus jamais la replier. Le nom et l'adresse de la galerie étaient inscrits en relief dans un coin, et son nom et celui de l'hôtel au centre, dans une parfaite écriture manuscrite. Elle retira le papier et découvrit un holoprojecteur de chez Braun, tout neuf, et une enveloppe plate de plastique transparent qui contenait 7 holofiches numérotées. Par-delà le petit balcon d'acier, le soleil se couchait et enrobait la vieille ville d'or. Elle entendit des klaxons et des cris d'enfants. Elle ferma la fenêtre et se rendit jusqu'à un bureau. Le Braun, rectangle noir et lisse, était alimentée par des panneaux solaires. Elle vérifia sa charge, puis prit la première holofiche de l'enveloppe pour l'insérer. La boîte qu'elle avait vue dans la simulation de Virek au parc Gouel apparut au-dessus du Brown, rayonnant avec la parfaite résolution des meilleurs hologrammes muséaux. Des os et des circuits dorés, de la dentelle morte et un bout de marbre blanc formé à partir d'argile. Comment avait-on pu disposer ces morceaux, ces détritus, de telle sorte qu'ils touchaient en plein cœur, qu'ils accrochaient l'âme comme un hameçon? Puis, elle hocha la tête. Elle savait cela possible. Un homme nommé Cornell, qui faisait lui aussi des boîtes, l'avait déjà accompli bien des années plus tôt. Puis elle jeta un coup d'œil sur la gauche, vers le beau papier gris éléphant posé sur le bureau. Elle avait choisi cet hôtel au hasard, lorsqu'elle en avait eu assez de faire les magasins. Elle n'avait dit à personne qu'elle descendait ici, et encore moins à quiconque, de la galerie du Perret.